Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième entretien. C'est une rencontre avec Dom Pierre Doat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel et vous êtes auteur, et c'est un premier ouvrage pour vous, d'un roman. C'est le roman des anges avec cette figure et ce prénom, Arnaud, qui va rencontrer et qui va comprendre au fil de la lecture de votre livre que c'est un ange qui lui parle et que c'est son ange gardien.
C'est ça.
Il a mis du temps, Arnaud, avant de comprendre qu'il était en présence de son ange gardien.
En fait, le livre commence avec c'est un peu triste, mais avec la mort d'Arnaud. C'est-à-dire qu'il rencontre son ange gardien suite à sa mort. C'est quelque chose qui nous arrivera à tous, ça. C'est que, autant nous avons du mal à connaître et à distinguer les traits de notre ange gardien, parce que c'est normal, il n'a pas de corps, donc ça va être compliqué. Mais par contre, au ciel, lorsque nous serons au ciel, nous aurons l'opportunité de le connaître et de le rencontrer. Et donc Arnaud rencontre son ange gardien après sa mort, et tout l'objet de ce roman, c'est de faire des allers-retours entre cette rencontre au céleste entre Arnaud et son ange gardien, et la façon dont, au cours de sa vie, Arnaud a en fait été accompagné par son ange gardien sans forcément qu'il s'en rende compte. Voilà, donc il y a une sorte de passage tout au long du roman entre des épisodes qui se passent au ciel et des épisodes qui se passent sur Terre au cours de la vie terrestre d'Arnaud.
Alors, c'est un peu brusque, voilà, c'était votre choix. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour oser vous risquer aussi dès la première page
de tuer l'euro. En fait, c'est tout simplement parce que j'aurais pu trouver un autre moyen littéraire sans doute, hein, mais je me suis dit, pour que Arnaud puisse nous donner accès à ce qu'il comprend du monde des anges, bah, il faut que ce soit un ange qui lui explique lui-même. Et en fait, là, lorsque Arnaud meurt et lorsqu'il se retrouve au ciel, il rencontre son ange gardien et son ange lui dit, voilà, en gros, tu as le droit de me poser une question, celle que tu veux, et j'essaierai d'y répondre. Et la question que lui pose Arnaud, c'est, mais qui êtes-vous, qui es-tu, qui sont les anges? Et l'ange va conduire Arnaud dans une sorte de voyage dans le temps pour raconter à Arnaud la création des anges, le développement des anges, la croissance des anges, et puis aussi la chute des anges avec cette trahison du démon qui était un ange bon et qui va se détourner de Dieu avec d'autres anges. Voilà, donc j'avais besoin de faire ce passage un petit peu par le ciel pour pouvoir expliquer tout ça.
Par le ciel, et ça, c'est une introduction aussi par la mort brutale.
Voilà, ouais,
cette mort qui, effectivement, conduit à l'autre monde, ce monde qui est encore invisible. Vous avez écrit ce livre, Quand on devient lecteur, et je conseille ce roman des anges, comme une catéchèse pour celui qui méconnaît peut-être l'histoire des anges, l'histoire biblique aussi, et puis des débuts de la création. C'est un peu comme ça que vous l'avez conçu.
Oui, parce que l'enseignement de l'Église sur les anges est finalement très peu connu, y compris par des gens qui sont formés, hein, qui ont tout un tas de connaissances bibliques, scripturaires, théologiques, etc. On sait peu de choses, on nous a transmis peu de choses, c'est quelque chose qui a été peu enseigné, il faut bien le reconnaître. Moi-même, dans ma formation chrétienne, je n'ai pas forcément souvent entendu parler. Or, l'Église a un discours très très charpenté, très très solide sur ces questions-là, un discours qu'elle tire en gros d'abord des Écritures. Les Écritures nous donnent beaucoup de choses sur lesquelles méditer à propos des anges, et puis aussi sur la théologie. C'est-à-dire que le travail des théologiens, c'est à partir de la révélation de l'Écriture sainte, eh bien, que peut-on dire sur ce monde invisible auquel nous croyons, parce que nous y croyons. Ça fait vraiment partie de notre foi, nous le disons à chaque fois que nous disons le credo, je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Cet univers invisible dont il est question dans le credo, c'est l'univers des anges. Donc on y croit, mais on ne sait pas trop quoi croire. Et malheureusement, ça va entraîner deux conséquences possibles, soit un désintérêt pour la question, donc on va vivre comme si les anges n'existaient pas, et c'est dommage parce qu'on se prive d'un vrai soutien dans notre vie chrétienne, soit, deuxième écueil, qui est celui d'aller chercher dans tout un tas de théories fumeuses, et non pas dans l'enseignement de l'Église, des réponses à nos questions et à notre intérêt pour les anges. Et ça, c'est quelque chose que je constate, c'est qu'il y a un intérêt phénoménal de la part de beaucoup de gens pour les anges, mais souvent, ils vont aller chercher des réponses alors, sur Internet.
Tout à fait. Alors, on parle beaucoup des anges aussi dans un milieu qui est tout autre. On quitte le milieu chrétien et de la foi catholique, le monde un peu ésotérique.
Complètement.
Voilà, et ça, c'est comment discerner, comment donner quelques pistes de discernement, quelques clés aussi pour des auditeurs qui seraient peut-être tombés dans des lectures qui ne sont pas des lectures à conseiller, mais peut-être avec un grand danger. Et le milieu ésotérique présente de nombreux ouvrages où il y a une multitude d'anges. Mais qui sont-ils ?
C'est certain. Si vous allez dans les librairies qu'il y a dans nos grandes surfaces, là, à droite en rentrant en général, vous voyez que 40% des titres vendus, ça c'est une enquête de l'année dernière, sont liés à des questions ésotériques. Et dans ces 40% de livres vendus, une grande majorité sont en rapport avec les anges. Donc il y a un intérêt pour les anges qui dépasse les frontières de l'Église, ça c'est assez étonnant. Et malheureusement, tout ça ne repose sur rien. C'est-à-dire que je me suis intéressé, j'ai beaucoup parcouru cette littérature-là, ça m'a coûté cher d'ailleurs.
Donc vous avez beaucoup travaillé.
Oui, j'ai beaucoup travaillé cette question-là. Oui. Et malheureusement, ça ne repose sur rien que sur des pseudo-révélations qui n'ont jamais été reconnues ni par l'Église ni par personne, sur des pseudo-logiques souvent kabbalistiques, avec des choses comme ça. Et l'objectif, c'est simple, hein, soit... C'est un objectif commercial, c'est juste que ça se vend bien, donc allons-y, faisons des bouquins là-dessus, et disons n'importe quoi, c'est pas très grave. Soit, et c'est encore plus grave, soit il y a une manipulation de l'esprit, une manipulation de l'âme à travers ces ouvrages-là, qui vont vous faire croire que si vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez un mauvais ange sur le dos, qui va vous faire croire que si votre voisin n'est pas agréable, c'est parce que il faut lui envoyer un ange mauvais pour qu'il le mette hors d'état de nuire. Voilà, donc il y a tout un tas de... J'ai acheté mon dernier achat qui m'a coûté un bras. C'est un livre qui s'appelle le Dictionnaire des Anges, si je me souviens bien. Ça, le Dictionnaire des Anges, c'est un livre que je ne conseille pas à vos auditeurs. C'est une espèce de gros pavé de 800 pages où vous pouvez découvrir le nom de votre ange gardien et ses caractéristiques. Donc si vous êtes né tel jour, que vous avez les cheveux blonds et que vous avez plus de 2000 euros sur votre compte en banque, votre ange s'appelle... avec tel nom, et voilà ce qu'il peut faire, voilà comment il faut lui obéir, etc. Donc, et ça, c'est pas, il faut faire attention, c'est pas des gens idiots hein, qui vont avoir recours à cette littérature-là. Ouais. C'est plutôt des gens qui sont perdus, qui cherchent des réponses à leurs questions. Vous pouvez, moi j'ai croisé un homme cadre supérieur dans son entreprise qui faisait tous les soirs des rites d'appel à un ange qui étaient pour moi des rites proches de rites démoniaques. Simplement, tout ça était caché sous l'apparence du bien.
Alors, qu'est-ce que ça dit dans ces recherches de lecture ? C'est une quête de sens, c'est une quête de vérité. Quelle est votre réponse hein, après avoir parcouru ces ouvrages et puis écouter peut-être différents profils de lecteurs de passage dans votre sanctuaire ?
Pour plein de raisons que je n'arrive pas complètement à analyser. Alors, il y a les crises des religions. Alors, la crise que traverse la religion catholique, mais les crises qui traversent d'autres religions, la méfiance un peu généralisée vis-à-vis de tout ce qui est religion, fait qu'on s'est dit on va remplacer les religions par autre chose. Alors, par quoi on a remplacé ? Par le pognon et par la consommation. On s'est dit, voilà, pour être heureux, il faut avoir une belle maison, une belle bagnole et une belle télé. Voilà, sauf qu'on constate cet échec, l'échec de cette possibilité. La consommation ne donne pas le bonheur, voilà, pour ceux qui se posent encore la question. Mais je pense qu'on est peu nombreux à le penser. Et peu de gens le pensent encore. La consommation n'est pas une solution à la question du bonheur. Donc, on a supprimé les religions. La consommation est un échec. Donc, piochons. Faisons-nous une petite religion à notre taille, à notre image, et allons chercher des choses qui nous semblent un petit peu convaincantes, reposantes, consolantes, réconfortantes, mais sans engagement. C'est surtout ça, en fait, qui est très dangereux. On pense que c'est sans engagement. Alors qu'en réalité, l'ésotérisme s'achève toujours par un engagement, mais contre son gré. Voilà. C'est-à-dire que ça devient une drogue, ça devient une addiction. Moi, j'en rencontre des personnes presque quotidiennement qui sont prisonniers d'un certain nombre de pratiques qui sont beaucoup plus contraignantes, en fait, que les pratiques liées à la foi chrétienne, mais surtout par des pratiques qui viennent abîmer leur liberté, abîmer leur rapport aux autres, abîmer leur rapport au monde. Et ils sont persuadés qu'ils sont dans le bien parce qu'ils ont des confirmations que ça marche. Or, bah, il faut bien se le dire, la religion chrétienne, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui marche. Jésus, il est mort sur la croix. Voilà, ça n'a pas du tout marché, à vue humaine. Donc si notre rapport à cette religiosité-là consiste à se dire « je le fais parce que ça marche », c'est pas bon signe. Voilà. C'est pas parce que ça marche qu'on est chrétien. C'est parce que Dieu nous sauve. Voilà. Et Dieu, il nous sauve de beaucoup plus que une grippe, une voiture en panne et une facture d'électricité trop chère, quoi. Moi, je constate voilà, cet intérêt un petit peu généralisé qui me fait un petit peu peur parce que, encore une fois, les gens deviennent prisonniers de quelque chose qu'ils pensent pouvoir maîtriser. Or, s'il y a quelque chose qui est certain, c'est que si les anges existent, si les anges mauvais existent, il est impossible que nous puissions les maîtriser. Donc la prétention de pouvoir maîtriser des anges, qu'ils soient bons ou mauvais, est de toute façon hyper dangereuse. Voilà, de penser qu'on peut maîtriser quoi que ce soit là-dedans. Non, on ne maîtrise rien du tout.
En fait, il ne faut rien contrôler.
Il ne faut pas chercher à contrôler. Surtout pas. Et en général, quand on a l'impression de contrôler un ange, ça veut dire que c'est un mauvais ange qui se joue de nous.
Donc ce n'est pas bon signe.
Non, c'est pas bon signe.
C'est un des points peut-être qui pourrait un peu alerter.
Oui, et pour moi, tout ce qui revient à laisser croire qu'on peut exercer une domination sur un ange est dangereux. Voilà. Par exemple, lorsqu'on vous dit « donne un nom à ton ange », non. Ne donne pas un nom à ton ange. Hein, ton ange, il a un nom, il lui a été donné par Dieu. Ne lui donne pas un nom toi-même. Qui es-tu, toi, pour baptiser ton ange ? Alors, tu peux lui donner un surnom si tu veux, pas de problème. Mais c'est pas son nom. C'est pas toi de baptiser ton ange. Voilà, parce que c'est... On baptise son chien. Enfin, on donne un nom à son chien. On donne pas... Alors, on peut donner un nom à son enfant, justement, parce que c'est son enfant. On le baptise. Mais mon ange, c'est pas mon ange au même titre que mon enfant est mon enfant. Oui. Et donc tous ces trucs-là, il faut s'en méfier. Tout ce qui, encore une fois, le critère, c'est tout ce qui revient à nous faire croire qu'on exerce une domination ou un contrôle de l'ange est dangereux.
Alors, merci pour ces quelques bonnes clés hein, qui vont inviter, je l'espère, hein, ceux et celles qui vous suivent depuis le début de la semaine, à vérifier peut-être ce que l'on achète comme livre, vérifier ce qu'on a peut-être sur les étagères de sa maison, voilà, et si on a des points d'interrogation, si on n'est pas sûr sur tel ouvrage, en vous écoutant, dont Pierre Doat, et bien si on est en lien avec une paroisse, un prêtre ou un laïc bien engagé, bien formé, je dis bien un laïc en mission, avec une lettre de mission et qui est formé, eh bien, chers auditeurs, n'ayez pas peur, frappez à la porte du monastère, de la paroisse, pour vérifier, demander conseil. Voilà. Et puis, il existe aussi dans tous les diocèses de France, ou presque, un prêtre exorciste avec une équipe de laïcs qui peuvent parfois aider dans le discernement pour savoir si on est en présence d'un bon ou d'un mauvais ange, par exemple. Donc, Pierre Doat, on vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain, pour terminer cette série avec ce roman, le roman des anges qui se lit bien et que l'on peut offrir facilement. Voilà, une bonne catéchèse aussi en lisant votre roman. À demain.
À demain.